Écoutez la différence avec Dunia Web, votre meilleure radio Dunia Web.
Messieurs, dames, bonjour à tous et toutes. Dans quelques instants, nous allons commencer le programme. Nous attendons l'autorisation de son excellence, monsieur le président. C'est Domar. Ngari parawa nro lobonzi ho pia wajwa rengeze place. Il y randise shuhuli manasa rengi wakati wa quelques minutes de retard. Messieurs, dames, nous invitons toutes les personnes qui sont à l'extérieur de nous rejoindre ici. Oandroa liobonze rikanzaran ici. Après la mnafi jolobonze bala. À son excellence, monsieur le président, garanzo androa njio nwaketsi randise shuhuli kwezim tukuf. Ari 2 minutes, et quand le président a juste été 2 minutes, il a fait un coup d'état. 5 minutes pour diffuser cet événement à la radio Dunia Web. Ari raha, Dunia Web, Bukati, Prehun. Alors, je vous rappelle que cet événement sera diffusé à la radio Dunia Web. Donc, vous pouvez passer le message à vos amis qui sont un peu partout dans le monde. Ils peuvent nous écouter sur duniaweb.net. Et on fera un Facebook Live sur la page de la radio Dunia Web. Sur Snap aussi, vous pouvez nous rejoindre. Monsieur le Président, nous respectons les 2 minutes. Et après, on ne doit pas tarder. Je vous rappelle que ce soir, il y aura un concert. Pour ceux qui n'auront pas les disponibilités d'assister, bah, vous pouvez acheter les billets et les offrir à vos proches. Sinon, nous ramenez votre contribution. Messieurs, dames... Non, c'est pas grave, on va mettre... Wanyanyasi mlio bonzir kautsaha mri... Hudhuria unusalini, manar kwa nzara ndiseye... E makfali. Wanruwa ima letengulahi maihor jom tafadhalini, hena mri arenge plasiyahe, ilira ndise. Wanyisi yot ingo ni watukuf, rakanza randise, mana... Président Satoé Amri, je suis un peu de temps à faire un peu de temps à faire un programme. Je suis un
Mesdames et messieurs, honorables invités, chers étudiants et étudiantes, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer la journée de l'étudiant comorien en France. Une journée initiée par l'association Comore Impact. Comore Impact est une association qui est là juste pour accompagner les étudiants comoriens dans les diverses démarches administratives. Un accompagnement social, bien sûr, et d'autres démarches, notamment l'inscription des étudiants, les guider dans les diverses démarches pour l'attribution des titres de séjour et autres sujets. Aujourd'hui, c'est la 2e session pour la journée de l'étudiant comorien en France. Divers thèmes seront présentés aujourd'hui et nous demandons nos excuses de ce retard. Sans tarder, je vais présenter et appeler le président de l'association Comore Impact pour son discours. Monsieur le Président.
Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un grand honneur pour moi de me trouver devant vous. En ma qualité de président de Comore Impact, au nom de tous les étudiants que je représente, permettez-moi de vous prononcer quelques mots qui, je l'espère, ne seront pas longs, mais concis et plaisants. Je ne saurais commencer ces quelques mots sans vous présenter l'association Comore Impact, ses réalisations et ses projets en cours et à venir. L'association Comore Impact est une association d'étudiants comoriens en France, ouverte à toute personne de bonne volonté, accordant un intérêt à l'éducation et la formation. Les ambitions de cette association pourraient se résumer en 3 points. l'Union des étudiants comoriens en France, afin de mutualiser leurs connaissances et maximaliser leur dynamisme, la promotion de la production intellectuelle des Comoriens, chercheurs et écrivains, envie de porter haut et fort les couleurs de notre jeune littérature, et l'accompagnement des étudiants étrangers, notamment comoriens, pour une meilleure intégration et une réussite universitaire garantie. Nous sommes persuadés que notre force et notre efficacité résident dans notre unité et que la solidarité nous aidera à réduire les échecs et le décrochage. Je lance un appel à toutes les personnes éprises de bonne volonté. Rejoignez-nous tous et toutes dans ces projets associatifs ambitieux, car c'est bien ensemble que nous saurons relever ces nombreux défis. Une année s'est déjà écoulée depuis la célébration de la création de Comore Impact. Je suis là aujourd'hui pour vous dire que la mobilisation de Comore Impact en faveur des étudiants et de tous bords, comoriens notamment, est sans faille. Nous sommes très actifs, comme vous pouvez le constater, dans les réseaux sociaux. Le levier de toute réussite et tout élan actuel et moderne. L'association Comore Impact s'est structurée. Elle est organisée désormais par un bureau, lui-même coordonnant trois pôles autonomes. Un pôle en rédaction pour l'édition d'un journal étudiant, un pôle des affaires étudiantines pour toutes les préoccupations universitaires et un pôle scientifico-culturel pour nos diverses manifestations littéraires et culturelles. Et un pôle de santé sociale encore en chantier. Nous avons noué de nombreuses relations de partenaires avec des médias, Campus France, différentes structures étudiantes, la diaspora et d'autres institutions. Preuve s'il en était que Comore Impact demeure une association active, ouverte et en placement tourné vers l'avenir. Fidèles à nos engagements de toujours, nous continuons d'accompagner les étudiants qui le souhaitent dans leurs différentes démarches, inscriptions, relecture de mémoires, de fin d'études. Nous avons également élaboré un site internet, réalisé maintes émissions et sensibilisations d'orientation, le tout pour nous approcher de tous les étudiants comoriens et d'ailleurs. Enfin, une cellule de Comore Impact a vu le jour aux Comores. Elle organise des ateliers de sensibilisation et d'orientation des étudiants qui s'apprêtent à venir poursuivre leurs études ici en France. S'agissant des projets en cours et à venir, nous sommes actuellement sur le point de créer le premier journal de l'étudiant comorien en France. S'en suivra, nous l'espérons tous, la réalisation d'un film ou documentaire sur la vie de l'étudiant comorien en France, la création d'une base de données regroupant les travaux portant sur notre pays. Enfin, nous comptons en collaboration avec la diaspora comorienne de France et toutes les bonnes volontés mener des actions sociales envers les étudiants qui, le plus souvent, en sont hélas nécessiteux. Je vous invite donc à bien vouloir soutenir ce projet en vous acquittant du bien qui vous est demandé. L'association Comore Impact et moi-même vous remercie de nous avoir honorés par votre présence et d'avoir honoré par la même occasion la journée de l'étudiant comorien en France. Seuls nous irons plus vite, mais ensemble nous irons plus loin. Je vous remercie.
Sans tarder, la journée d'aujourd'hui va se porter sur divers programmes. La première phase sera une rencontre avec un juriste qui va nous expliquer les diverses démarches administratives à mener pour que l'étudiant comorien ou l'étudiant étranger en France puisse bénéficier des droits d'un étudiant dans le pays d'accueil. La deuxième phase, ça sera une rencontre littéraire. Et la troisième phase, nous allons présenter les travaux de recherche de certains étudiants ou doctorants comoriens qui sont en France, puisque malgré les difficultés que l'étudiant comorien rencontre en France, il y a certains étudiants qui arrivent bien sûr à accéder aux études supérieures et à aller jusqu'en thèse et en agrégation. Maintenant, nous allons écouter un discours des autorités locales qui nous ont accueillis dans leur commune, bien sûr, à Sarcelles. Et c'est Madame Céline Dijoux qui va présenter son discours. Et après cela, nous allons écouter la première phase qui sera animée par le modérateur, le docteur Johar. Nous allons écouter le discours de Monsieur le maire, Monsieur Dufritz Swalihi.
Merci, cher ami. Monsieur le premier conseil de l'ambassade des Comores à l'UNESCO, Monsieur le premier conseil de l'ambassade de France des Comores, pardon, ici en France, Mesdames et Messieurs, les élus, j'ai cru comprendre. Je ne suis pas le maire de Sarcelles, je ne suis pas élu de Sarcelles, je suis le premier adjoint du maire de Montreuil. Je suis originaire de la Grande Comore, plus exactement de Mitsamioli. Donc je tiens tout d'abord à vous remercier de m'avoir invité à venir échanger avec vous. Et je tiens aussi à saluer cette belle initiative. Alors, Comore Impact, vous êtes constitué en association. Vous êtes relié à différents mouvements, dont ce réseau également aussi de Comoriens qui s'appelle REVA, pour mutualiser, pour partager, pour faire ensemble. Pour, vous venez le dire, Monsieur le Président Jaffar, j'ai dû vous saluer en effet aussi, plus seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Vous avez terminé par cela. Ceci montre que vous êtes, vous, jeunes étudiants comoriens, de votre époque. Vous avez compris qu'aujourd'hui, dans ce monde qui est caractérisé par... On pourrait au moins nommer trois caractéristiques qui sont la complexité, le fait que nous n'avons pas le choix que de nous réinventer sans cesse au risque d'être déclassés. Deuxième caractéristique, l'accélération. Nous sommes dans un monde de la vitesse. Nous sommes tenus d'être de plus en plus réactifs. Quelqu'un disait... Nous sommes passés d'un monde où c'était les plus gros qui avalaient les plus petits à un monde où c'est les plus rapides qui avaleront les plus lents. Troisième caractéristique de ce monde dans lequel nous sommes et que vous montrez que vous avez bien compris, c'est l'incertitude, l'instabilité. Le fait que désormais, il n'y a de permanence que le changement. À travers votre initiative, jeune comorien, étudiant, à travers cette association Comore Impact, vous faites la démonstration que vous comprenez cela. Et en cela, je tiens à vous féliciter. Je vous dis bravo. Parce que, comprenant cela, il n'y a donc pas de possibilité aujourd'hui de faire sans les autres. Et donc, l'organisation qu'il convient, c'est l'organisation en réseau. C'est le collaboratif. C'est le faire ensemble. Et vous faites la démonstration que vous comprenez cela. Encore une fois, je vous félicite. Mais le propos aujourd'hui est donc de nous inviter à réfléchir sur les questions ou les problématiques de l'intégration. Comment penser convenablement l'intégration ? Pour nous qui venons d'ailleurs, quel que soit, que nous soyons français de nationalité, que nous ayons décidé tout simplement de faire notre vie ici. Que devons-nous comprendre de ce pays pour qu'on puisse réellement nous intégrer ? Peut-être commencer à nous approprier l'histoire de ce pays. Ses rites, ses coutumes, son système de valeurs, ses normes, le système social. Vous voyez ? Il me semble que cela doit être le premier acte que nous posons, que nous devrons poser. Mais est-ce que cela suffira ? Certainement pas. Il faudra aussi que nous puissions apprendre sur nous-mêmes. Et quel est cet apprentissage sur nous-mêmes ? D'abord, apprendre en osant prendre par construire une autonomie de pensée. Apprendre à penser par nous-mêmes. Oser penser par nous-mêmes, sans préjugés, sans l'influence d'aucune autorité. Les caractéristiques de ce pays, qui s'appelle donc la France, qui est le nôtre, ou que nous avons décidé de faire le nôtre, eh bien, est une et certains disent multiculturelle, d'autres disent cosmopolite. Ça, c'est ceux qui ont une vision positive des choses. Parce que il y a ceux qui considèrent que cette France doit d'abord s'appartenir. Cette France qui veut donner la prééminence aux Français de souche et exclure ceux qui sont devenus Français, comme la plupart d'entre nous. Eh bien, comprendre ce pays pour qu'on puisse s'y intégrer, c'est comprendre cela et ensuite prendre notre part, agir, nous impliquer, éviter le entre-soi, le communautarisme, nous ouvrir aux autres, à l'image de ce que fait là, comment impact, en étant relié aux autres. Mais j'observe que nous devrons le faire davantage. Nous, Français d'origine comorienne, nous sommes beaucoup trop entre nous. Nous ne sommes pas assez ouverts aux autres. Ce qui ne nous permet pas de tirer parti de ce que ce pays peut nous apporter. Nous sommes là et on se vit comme des gens d'ailleurs, alors que c'est ici que ça se passe. Donc, prenons notre part. C'est notre pays. Et ce pays a besoin de nous. Il faut qu'on s'autorise. Qu'on s'autorise dans l'action. Donc, la posture que je vous propose pour peut-être tendre vers une intégration réussie, c'est une posture résolument offensive. Ça ne veut pas dire que c'est une posture d'optimisme béat. On va penser que tout est possible ou que l'on nie les problèmes. Bien sûr qu'il y a des difficultés. Ce chômage de masse, cette exclusion, ce racisme, tout cela existe, bien sûr. Nous voyons bien qui sont le plus touchés par le chômage, qui sont ceux qui ont des difficultés à obtenir le logement. Tout ça, on le sait. Malgré cela, nous devons prendre notre part dans l'action. Nous devons entreprendre. Et si nous essayons tout cela, et si nous le faisons réellement avec détermination, avec l'imagination, avec la créativité, avec l'invention, non seulement ce pays sera le nôtre, mais nous pouvons aussi là, à partir de ça, contribuer à ce que ceux qui sont restés là-bas, eh bien, nous améliorerons leur sort. Parce qu'ici, on nous regardera différemment. Et nous pouvons exercer de l'influence pour qu'aujourd'hui, l'État français puisse contribuer davantage au développement de nos îles. Nous voyons bien la dégradation en termes de politique d'accompagnement au développement. Dans les années 80, nous étions à combien ? 0,7% du PIB de la France était dédié à l'accompagnement des pays en développement. Aujourd'hui, nous sommes à peine à 0,4%. Mais la plupart d'entre nous, lorsque nous envoyons 150, 200 euros au pays, nous sommes imposés dessus. Alors que nous contribuons au développement, nous contribuons à ce que la misère ne sévisse pas au pays. Et donc nous devons nous battre, c'est ça l'influence, à ce que nous puissions défiscaliser ce que nous envoyons là-bas. Parce que c'est du pouvoir d'achat en moins. Je ne vais pas être plus long, mais je voulais juste vous sensibiliser sur le fait que l'initiative qui est prise ici avec Comore Impact est une initiative salutaire parce qu'encore une fois, les étudiants, vous êtes le futur et que nous devons ensemble nous engager, être dans l'action pour les choix que nous allons faire, soit ici, soit là-bas, mais il n'y a pas d'antinomie à être ici et agir pour là-bas. Nous devons apprendre tout simplement à décloisonner mentalement tout cela. Voilà, je ne vais pas être plus long, je voulais juste, en guise un petit peu d'introduction, puisque c'est ce qui m'a été demandé, et puis j'ai essayé là tout simplement aussi de parler de ma propre expérience. Je suis un enfant adopté. Je suis un enfant qui a connu la faim. Quand j'étais petit, à l'âge de 9 ans, j'allais à l'école le ventre vide. Quand je revenais, il n'y avait pas non plus à manger. Heureusement, à cette époque-là, les copains, on était solidaires, donc il y avait toujours un plat quelque part. Dans ma maison, la saison de pluie, je recevais la pluie. Mais j'ai eu la chance des gens qui m'ont accueilli, qui m'ont donné l'amour et qui m'ont permis d'étudier et d'être aujourd'hui ce que je suis. Et donc, à mon tour, d'essayer de rendre cela. Mais moi, j'ai choisi d'agir ici en espérant qu'ensemble, nous pouvons aussi agir pour ceux qui sont là-bas. Je vous remercie et je vous promets que l'année prochaine, en tout cas, je vous y invite à ce que la 3e édition, nous puissions la réaliser dans ma ville de Montreuil. Merci.
Merci beaucoup, monsieur le premier adjoint au maire de Montreuil, de vos précieux mots et de vos encouragements. Nous avons bien pris note et sans plus tarder, nous allons suivre le premier panel de cet événement. Et sans plus tarder, comme il a été annoncé dans un premier temps, nous allons assister aux conférences sur la thématique des initiatives sociales et approches juridiques prioritaires pour les étudiants étrangers. Et donc, ça sera animé par Madame Villoutré et le modérateur Johar. Donc, on a pris des retards, on va faire 25 minutes, s'il vous plaît. Monsieur Johar, Monsieur Docteur Johar et Madame Villoutré.
le représentant de l'ambassade des Comores en France, chère assistance, honorables invités, bonsoir. Tout d'abord, permettez-moi encore une fois de profiter de cette occasion pour remercier l'association Comore Impact, organisatrice de cette belle conférence ou rencontre. Une rencontre qui s'inscrit bien entendu dans le cadre de la promotion de la littérature comorienne, une littérature qui est si jeune, qui s'inscrit également dans le cadre de la promotion des travaux universitaires, mais aussi de la culture comorienne, parce que nous allons accueillir aujourd'hui des artistes comoriens. Voilà. Et c'est une belle occasion, quand même, que chacun de vous, que chacun de nous, pardon, doit s'en profiter. Pourquoi ? Parce que l'association Comore Impact, chaque année, nous fait vivre des moments où des rencontres, d'échanges, de partage et de connaissances. Donc, nous voulons que chaque association fasse pareil. Et je ne peux pas être vraiment bavard comme une pie. Parce que je pense que peu des Comoriens connaissent notre amie Céline. Céline qui est spécialiste des droits des étrangers. Donc, c'est une amie de longue date qui nous a fait quand même plaisir d'être présent. Et encore une fois, merci beaucoup pour ta présence. Bon, sa modestie, bien sûr, a fait qu'on peut se tutoyer, a fait qu'on peut aussi, je l'appelle Céline. Comme elle peut m'appeler aussi Abdou, mais pas Johar, parce que Johar, c'est le nom des familles. Donc, voilà, c'est sa modestie qui a fait que je l'appelle Céline. Alors, Céline, bon, je peux faire quand même une biographie sommaire. Céline, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une spécialiste des droits des étrangers. Aussi, elle est coordinatrice, c'est ça, d'une association.
Je vais vous aider.
Voilà. Donc, de toute façon, elle aura quand même l'occasion de développer beaucoup plus approfondi quand même son parcours. Mais ce qui est très important, nous avons eu quand même l'occasion, le plaisir de la recevoir aujourd'hui pour nous présenter beaucoup plus de façon beaucoup plus approfondie sa thématique initiative sociale et approche juridique prioritaire pour l'étudiant étranger en France. Donc c'est quand même c'est un thème très important dans la mesure où chacun de nous a besoin de s'intégrer une fois arrivé en France. Raison pour laquelle je vous demande encore une fois de rester vraiment concentré, d'être vraiment à l'écoute pour que son intervention puisse se dérouler vraiment dans de bonnes conditions. Voilà, je donne la parole à notre amie Céline.
Merci de m'avoir invitée. Donc, je suis Céline Villoutrex. Je coordonne en fait le point d'accès aux droits des jeunes qui est dans le 15e arrondissement de Paris, au pied de la Tour Eiffel. Et en fait, un point d'accès aux droits des jeunes, nous accueillons les jeunes de toute la région Île-de-France, quel que soit le problème juridique. Donc, je fais effectivement du droit des étrangers, mais pas que. Les jeunes viennent nous saisir pour des questions en matière de droit du travail, droit de la famille, droit du logement. Et effectivement, depuis 10 ans que nous sommes implantés au CIDJ, on a accueilli à peu près 17 000 jeunes et on les accompagne. Donc bien entendu, la problématique en matière de droit des étrangers est assez présente et on peut accompagner des jeunes pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans jusqu'à l'obtention d'un titre de séjour. Alors, ma présence aujourd'hui, j'ai rencontré en fait le président de cette association dans le cadre d'une nouvelle permanence que la mairie de Paris a bien voulu financer que je viens effectivement pas défendre, mais je suis ravie que la mairie de Paris ait effectivement financé une permanence qui est réservée aux étudiants étrangers. Et c'est dans ce cadre que j'ai rencontré le président de l'association. C'était une permanence à titre expérimental sur la fin de l'année 2017, avec très peu de communication, la permanence était déjà pleine. Donc immédiatement, ils ont pris la décision de la renouveler, pas pour 3 mois, mais bien pour 1 année. Et on espère bien qu'effectivement, c'est une permanence qui va être pérennisée. Et voir, moi, mon objectif sur l'année, c'est qu'il y ait tellement d'étudiants qui viennent, qu'ils en financent 1 ou 2 par semaine, réservés aux étudiants étrangers, puisqu'effectivement, ce sont des problématiques bien particulières et qui demandent une attention particulière. Donc cette permanence se déroule à la Maison des Initiatives étudiantes, rue des Tournelles à Paris. Donc elle accueille tous les étudiants étrangers, et l'avantage d'être au sein de la Maison des Initiatives étudiantes, c'est que effectivement il y a la permanence juridique, mais il y a aussi une permanence d'un psychologue parce que là effectivement je vous avouerai que je découvre un petit peu le programme de l'après-midi, mais effectivement quand on parle d'étudiants et d'étudiants étrangers, se pose la question de l'insertion, de l'intégration et du problème de l'isolement. Nous, on a été confrontés à ces questions-là. Et du coup, la Maison d'initiative étudiante, au départ, avant cette permanence juridique, a mis en place des permanences avec un psychologue, justement pour accompagner des étudiants, pas qu'étrangers, mais aussi étrangers, qui rencontrent des problèmes d'intégration, d'isolement, de dépression. Donc il y a ce type de permanence, mais il y a aussi beaucoup d'initiatives au sein de la Maison des Initiatives étudiantes. Et donc c'est un lieu pour faire du lien, pour des rencontres et pour trouver un maximum d'informations, pour être suivi, un lieu d'échange. Voilà. Moi je découvre aussi ce lieu puisque cette permanence, nous l'avons démarrée au mois d'octobre. Donc j'ai appris aussi à connaître, autant je connais bien le CIDJ puisque nous y sommes depuis 10 ans, qui est aussi un véritable lieu ressource pour les jeunes. C'est le centre d'information et de documentation pour les jeunes, donc également un véritable lieu ressource pour les jeunes étudiants. Mais voilà, aujourd'hui on a la possibilité, donc juste à titre d'information, donc cette permanence pour les étudiants étrangers est tous les mardis de 13h30 à 15h30 sans rendez-vous. Donc en tout cas pour toute l'année 2018, et j'espère bien qu'on pourra vous donner d'autres jours au cours de cette année. Alors effectivement, quand j'ai rencontré votre président, il m'a sollicité effectivement sur la question du droit des étudiants étrangers. Je lui demandais combien de temps j'avais, parce qu'effectivement c'est des formations, moi, que j'assure, des sensibilisations que j'assure auprès des professionnels de l'insertion, mais également des étudiants eux-mêmes. Il m'a dit que j'avais 45 minutes au départ, et là j'ai entendu 25 minutes. Donc bon, je peux juste vous dire qu'il y aura pas de, je ne peux pas tout vous transmettre en maintenant 20 minutes puisque j'ai pris 5 minutes de présentation. L'idée avait été d'essayer de pointer les éléments essentiels, que vous gardiez quelques éléments essentiels, voilà, pour que ça allume quelques. Je pense à la question du renouvellement ou du changement de statut. Il y a 2-3 petites choses qu'il faut que vous gardiez en tête. Et je dirais que la chose la plus importante, c'est qu'il y a des lieux pour vous informer gratuitement et vous accompagner. J'ai envie de dire que c'est voilà, avoir quelques idées et savoir que sur la question administrative, ça s'anticipe, tout s'anticipe. Faut, en tout cas, si on parle des relations avec la préfecture et les préfectures, une des premières choses à savoir, c'est qu'il faut éviter de faire des choses à la dernière minute. Et quant à des choix pour des étudiants, les choses se construisent. Donc c'est anticiper. Vous voulez changer de cursus, vous voulez changer de statut, ça ne se fait pas en 10 jours, notamment au regard de cette problématique des papiers. Donc voilà une des choses. En matière de préfecture, c'est pas simple. Je peux pas dire qu'en plus une préfecture ne fonctionne pas De la même manière, celle de Paris, celle du 93 ne fonctionne pas de la même manière. On a les sous-préfectures, les pratiques sont très différentes, les prises de rendez-vous sont très différentes. C'est pour ça que, avant toute chose, ayez conscience que, puis c'est, en plus, les pratiques évoluent. C'est-à-dire que d'un département à un autre, au bout de 6 mois, j'ai des pratiques qui ont évolué. Donc sur la prise de rendez-vous, sur Internet, pas Internet, etc. Donc ne jamais se prendre à la dernière minute en ce qui concerne les questions des papiers. Et comme je vous expliquais, vous avez des lieux pour vous accompagner et vous informer le mieux possible pour effectivement trouver la meilleure des solutions pour chacun d'entre vous. Donc il y a effectivement cette permanence à la Maison des Initiatives étudiantes rue des Tournelles, mais des accès au droit, des points d'accès au droit. Nous sommes ici dans la ville de Sarcelles. J'ai pas tous les lieux d'accès au droit puisqu'il y en a partout en France. Ça s'appelle des maisons de justice ou des points d'accès au droit, vous en avez partout, il y en a à Sarcelles, vous pouvez vous appuyer sur ces structures d'accès au droit. Donc je vous propose d'aborder, alors de manière très sommaire, 3 points, qui est effectivement l'arrivée, comment on est étudiant en France pour un ressortissant étranger, la question du renouvellement de la carte de séjour et la question du changement de statut. Donc ça va être, je vous dis, ça va être vraiment, j'essaie de pointer des points pour que vous gardiez certaines choses. Venir étudier en France, la procédure, la règle, la première règle, c'est que la demande doit être faite du pays d'origine, absolument. Donc on avait ce qu'on appelle, on appelait ça il y a encore peu de temps, Campus France. Et aujourd'hui, ça ne porte plus ce nom, ça s'appelle les centres d'études en France, qui ont remplacé en fait Campus France. C'est ces centres par lesquels on passe pour effectuer toutes les démarches. Sachant qu'il y a un délai pour la rentrée universitaire 2018-2019, les dossiers doivent être déposés, si je ne me trompe pas, avant le 22 janvier. Donc il y a des délais pour venir étudier en France. Il faut s'y prendre 6 mois avant pour déposer un dossier, que la demande soit instruite, etc. etc. En fait, effectivement, pour venir étudier, il faut obtenir ce qu'on appelle un visa long séjour. On peut, à titre exceptionnel, sans avoir obtenu un visa long séjour, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait ses démarches dans le pays d'origine, on peut, en France, demander le titre de séjour étudiant dans 2 cas. Il y a 2 exceptions. J'ai vérifié qu'effectivement, les Comores, il n'y avait pas de soucis. Soit, en fait, il faut être rentré régulièrement sur le territoire, donc avec un visa touriste, 3 mois, le visa classique, et soit être rentré au plus tard à l'âge de 16 ans sur le territoire, avoir poursuivi des études secondaires, obtenu le bac en France et poursuivre des études universitaires, des études supérieures. Si on remplit ces conditions-là, à titre exceptionnel, on peut faire la demande de carte de séjour étudiant sur le territoire français. Et la deuxième situation où on peut solliciter cette carte de séjour directement en France, c'est lorsqu'on a obtenu un master 1. On est rentré régulièrement avec un visa touriste et qu'on a obtenu un master 1 sur le territoire français et qu'on veut poursuivre en master 2 ou un doctorat, etc. En dehors de ces 2 situations qui nécessitent l'une et l'autre une entrée régulière, donc avec un visa, donc soit être arrivé au plus tard à l'âge de 16 ans, obtenu le bac, poursuivre des études universitaires ou obtenir un master 1 sur le territoire français, donc le tout sans papier, on ne peut pas faire de demande de carte de séjour étudiant sur le territoire. C'est-à-dire qu'on pourra faire une autre demande, puisqu'il existe d'autres types de cartes de séjour, mais pas la carte de séjour étudiant. Donc voilà, c'est vraiment la grande règle, c'est qu'effectivement la demande doit être faite du pays d'origine. C'est vraiment un des contrats avec l'État français, c'est permettre à des étudiants étrangers. Ce que veut faire l'État français concrètement, c'est de vérifier que les étudiants aient bien un niveau, que la voie étudiante, entre guillemets, ne soit pas une ouverture à l'immigration. Je me permets de m'exprimer librement avec vous, hein. C'est une forme de contrôle de l'immigration. Et le contrat avec l'État français est vous venez étudier en France Et normalement, à l'issue des études, vous êtes amené à repartir dans les pays d'origine pour, bénéficier, faire bénéficier de l'enseignement reçu sur le territoire français. Ça, c'est la philosophie de la carte de séjour étudiant en France. Donc, voilà sur comment on l'obtient, du pays d'origine avant tout. Il y a de rares exceptions. On instruit des dossiers. On a obtenu des cartes de séjour étudiants sur le territoire français alors que la personne était venue sans ce visa, ce fameux visa sur long séjour. Mais faut se battre. On se bat, mais ça fonctionne. Voilà. Alors, la plupart, malgré tout, des étudiants étrangers que l'on rencontre ont un visa long séjour. Ça a été une réforme d'il y a 3 ou 4 années, peut-être un peu plus maintenant. Le visa long séjour tient lieu pour la première année de titre de séjour. Auparavant, les étudiants venaient avec le visa long séjour et dans les 2 mois qui suivaient leur arrivée, se présentaient en préfecture pour demander le titre de séjour étudiant d'un an. Pour désengorger les préfectures, ils ont décidé que ce visa long séjour obtenu du pays d'origine permettait de pouvoir étudier pendant un an sans aller solliciter la carte de séjour étudiant. Donc le premier titre de séjour, la demande se fait un an après. Donc là aussi, juste très attention, on ne demandez pas votre rendez-vous 15 jours avant l'expiration de votre titre de séjour. C'est possible, sauf qu'ils vont vous convoquer. Sur Paris, on a des délais de convocation qui peuvent aller... Alors, pour les étudiants étrangers, c'est peut-être un tout petit peu mieux que pour les autres catégories, mais on peut avoir des convocations 4 ou 5 mois après. Et quand on a un petit boulot, etc., on peut se retrouver juste avec une convocation, un titre de séjour qui a expiré et un employeur qui vous demande un titre de séjour en cours de régularité pour pouvoir continuer le petit job étudiant. Donc, ce que l'on conseille, nous, aujourd'hui, c'est au minimum, allez, j'ai envie de dire pour être tout à fait sûr, 4 mois avant l'expiration du titre de séjour, on fait une demande de rendez-vous pour le renouvellement du titre de séjour. Sachant qu'une des réformes de novembre 2016, c'est les étudiants obtenaient un titre de séjour d'un an, renouvelé chaque année jusqu'à la fin des études. Toujours dans le même esprit de désengorger les préfectures, ils délivrent maintenant des cartes de séjour pluriannuelles. Donc, calqué sur la durée des études. Donc en fait, un jeune qui est rentré sur le territoire avec un visa long séjour et qui est rentré en licence 1 va donc la première année étudier avec son visa long séjour. Au moment du renouvellement, à l'issue de la première année, il va solliciter un renouvellement et on ne va plus lui délivrer une carte d'un an, mais de 2 ans, qui est calqué puisqu'effectivement c'est un cycle d'études et c'est licence 3. Pour obtenir une licence 3. Donc, au bout d'une première année de licence 1, l'étudiant doit recevoir aujourd'hui, et c'est de droit, une carte au minimum de 2 ans. Lorsqu'on passe en master 1, c'est master 1, master 2, et on va obtenir de la même manière une carte de séjour pluriannuelle de 2 ans. Donc, ça, c'est une des réformes, la carte de séjour pluriannuelle. Il n'y a pas à la demander, elle doit... Alors, moi, je vous conseille quand même de le faire, puisque la réforme est encore... assez récente. Ça commence à être un peu moins, c'était novembre 2016, mais voilà, le temps que tout se mette en place dans les préfectures, normalement, il n'y a pas à le demander. Moi, je vous... Demandez-la. Ce qui vous évite effectivement de vous présenter chaque année en préfecture et vous évite les joies des files d'attente qui peuvent prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures pour accompagner beaucoup de jeunes dans les préfectures. Je sais qu'on y passe beaucoup de temps. Un bon bouquin est toujours conseillé pour la préfecture. Donc, voilà. Ce que je pouvais vous dire sur la question du renouvellement. Pour le renouvellement, ils vont vérifier 3 choses. Ils vont vérifier le sérieux et l'assiduité. Donc, en fait, ça va ensemble, le sérieux et l'assiduité. Il y a ce qu'on appelle une attestation d'assiduité. Ils vont aller vérifier qu'effectivement, l'étudiant s'est bien présenté en cours. Moi, je vais vous donner 2 exemples que j'ai eus où on peut comprendre la position de la préfecture, mais sur la question de l'assiduité et du sérieux. J'ai eu deux étudiants qui sont présentés, l'un et l'autre. Un qui venait d'Amérique latine et qui avait été admissible en éco, je crois en licence 1 d'éco, et qui s'est aperçu très rapidement que son niveau de français, il avait pris des cours de français, etc., mais que son niveau de français n'était pas suffisant pour suivre, c'était peut-être en master 1, il était à un certain niveau, que son niveau de français n'était pas suffisant pour suivre et qu'il n'arriverait pas à obtenir son master 1. Donc il a décidé effectivement de mettre entre parenthèses son master 1, de prendre des cours intensifs de français. Il avait mis en place au sein d'une asso des, comment dire, pas des cours, mais un échange avec les Français, etc. Donc, pas uniquement des cours, mais voilà, échanger, parler, pour maîtriser et reprendre mieux encore son master 1 l'année suivante. Sauf qu'effectivement, il ne s'est pas présenté en cours, il ne s'est pas présenté au partiel. Il s'est présenté pour le renouvellement en expliquant. Et en fait, on a eu un refus de renouvellement de la carte de séjour étudiant. Un deuxième étudiant, et on sentait l'étudiant extrêmement sérieux et qui avait fait un choix, moi, que je trouvais relativement judicieux. Et je reçois un deuxième étudiant que je sentais beaucoup plus laxiste, qui un peu paumé dans ses études et qui avait échoué, qui cherchait à changer d'orientation sans trop savoir où il allait. Mais qui avait assisté au partiel, qui avait assisté au cours obligatoire et assisté au partiel en ayant eu un, deux assez partiels. Il n'a eu aucun problème de renouvellement. Il a eu son renouvellement. Donc moi, depuis cette expérience, et je crois que je les ai reçus pas l'un derrière l'autre, mais quasiment. Voilà, le premier choix, je le trouvais très judicieux. Et j'avais affaire vraiment à un étudiant, pour en voir beaucoup maintenant. C'est un étudiant extrêmement sérieux. On s'est battu, il l'a de nouveau obtenu sa carte de séjour, mais il a fallu qu'on passe au tribunal administratif, ça a été long. Donc un des conseils, c'est même si le cursus n'est pas adapté, même si en termes de langue c'est compliqué, etc., il faut se maintenir. C'est-à-dire qu'il faut se maintenir dans le cursus l'année choisie et surtout assister aux cours obligatoires et assister et passer les partiels. Peu importe qu'il y ait 1, 2 ou 0, il faut en fait obtenir ce certificat d'assiduité. Il y a malgré tout une possibilité, je sais que les facs organisent des passerelles pour éviter qu'on ne passe une année dans une matière qu'on ne souhaite pas étudier. Il y a des passerelles directes pour passer d'une matière à une autre, d'un domaine à un autre dans la même année. Mais si ça n'est pas possible, il faut se maintenir et assister aux cours obligatoires. Sinon, vous risquez de vous voir refuser le renouvellement de la carte de séjour étudiant. Donc ça, c'est la question du sérieux et de l'assiduité. Et on a la question de la progression. La progression, c'est qu'effectivement, on attend qu'un étudiant progresse dans les études, licence 1, licence 2, licence 3. Ça ne veut pas dire que l'étudiant n'a pas le droit de rater. Il a tout à fait le droit d'échouer. On n'a jamais demandé aux étudiants de valider les années en une année. Le redoublement, entre guillemets, est totalement accepté. Je veux dire que j'ai commencé, moi, à avoir des difficultés de renouvellement de carte de séjour étudiant quand l'étudiant en était à sa troisième ou quatrième première année. Donc, et là, j'ai envie de vous dire que nous-mêmes, quand on est confronté à ce type de situation, moi, j'interroge l'étudiant étranger en lui demandant si c'est réellement la bonne voie. Si au bout de 4 ans de première année, on est sur la bonne voie, bien sûr, en dehors de questions de problèmes de santé. Si un étudiant rencontre des problèmes de santé, mais encore faut-il qu'il y ait des justificatifs, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, on a la question... D'accord. C'est quoi ? Tu peux passer aux questions. C'est bien ça ?
Oui.
Ok. Je ne vous dis pas de mots du tout sur le renouvellement ? Pas sur la question du renouvellement, mais sur la question du changement de statut. D'accord. Alors, je termine juste sur la question du renouvellement. Il y aura toujours la question de ressources. Donc, je vous disais, sérieux, assiduité, progression dans les études et les ressources. 615 euros de revenus par mois sur un an, approuvé. Bien entendu, on modère si l'étudiant est hébergé à titre gratuit. C'est-à-dire que dans ces cas-là, si l'étudiant est hébergé, et moi je demande à l'hébergeant généralement de mettre hébergé et nourri, j'héberge et je nourris, la question des 615 euros par mois approuvés à l'État français n'existe plus. Donc voilà, l'hébergement permet de remplir cette condition. Et attention à une chose, si dans votre demande de carte de séjour, vous avez mis que quelqu'un vous devait vous verser les 615 euros tous les mois, la préfecture, de manière aléatoire, je ne sais plus comment, mais un sur 30 étudiants qui se présentent, ils vont vérifier, non pas les, ils vont vérifier pour l'avenir, mais ils peuvent vérifier pour l'année qui vient de s'écouler. C'est-à-dire que si, lorsque la demande de carte de séjour avait été déposée, en disant telle personne me verse 615 euros par mois et s'engage sur un an, ils sont en droit d'aller vérifier que la personne a bien vérifié sur l'année qui vient de s'écouler. Si ça n'est pas le cas, ils peuvent refuser le renouvellement de la carte de séjour étudiant. Et enfin, il y a un droit au travail qu'on appelle accessoire, c'est-à-dire que l'étudiant a le droit de travailler 964 heures par an. Les 964 heures, c'est en gros, c'est 21 heures par semaine et avec un droit sur l'été à temps complet, 2 mois. Donc c'est 21 heures toute l'année et 35 heures pendant l'été. L'idée qu'il faut garder sur ce droit au travail accessoire, c'est qu'ils vont vérifier que le fait d'avoir un job étudiant ne vient pas empiéter sur le temps d'études. C'est pour ça qu'ils permettent 21 heures par semaine quand vous êtes à la fac. Mais j'ai des jeunes étudiants, par exemple, où, avec des cursus qui se déroulaient de septembre à mars, de manière très concentrée. Donc, qui leur laissaient pas l'espace d'avoir un petit job à côté. Mais à partir de mars, tout était validé. Là, à partir de là, ils peuvent travailler à temps complet dans la limite de 964 heures. L'idée, c'est que ce temps de travail accessoire ne vienne pas empiéter. Et encore une fois, pourquoi l'État français a accordé ce travail, ce temps de travail accessoire, c'est encore une fois parce que la France ne veut pas, elle veut bien accueillir des étudiants étrangers pour qu'ils viennent étudier sur le territoire français, mais ne veut pas les prendre en charge. Voilà pourquoi il y a cette autorisation accessoire de travail. Donc voilà sur la question des droits, sur le changement de statut. Le changement de statut, il y a une règle absolument à respecter, c'est que pour faire une demande de changement de statut, il faut au minimum avoir obtenu, alors ça a changé depuis novembre 2016, mais c'était Master 2. Maintenant, une licence professionnelle est possible également. Et en fait, la raison pour laquelle il faut obtenir ce niveau d'études, soit une licence pro, soit un Master 2, c'est pour éviter de l'opposabilité de la situation de l'emploi. Je vous explique ce que c'est. L'opposabilité, vous êtes étudiant, vous voulez devenir salarié. Vous avez trouvé un emploi et l'opposabilité de la situation de l'emploi, c'est la préfecture, par l'intermédiaire de la directe, qui va demander à l'employeur en lui disant « Mais sur cet emploi, est-ce que vous n'avez pas trouvé soit un Français, soit un Européen, soit un ressortissant étranger déjà autorisé à travailler, mais pas avec une autorisation accessoire, une vraie autorisation de travail, est-ce que dans ces trois catégories, personne n'aurait pu prendre le poste que vous voulez offrir à quelqu'un qui n'a pas une autorisation de travail ? En gros, c'est la question du chômage sur le territoire français et on va réserver l'emploi à ceux qui sont déjà autorisés à travailler en France. C'est ce qu'on appelle l'opposabilité de la situation de l'emploi. Pour éviter ça, on évite ça à l'étudiant étranger lorsqu'il a obtenu soit un Master 2, soit une licence pro, et qu'il trouve un emploi en adéquation avec ses études, et qu'il va toucher un salaire équivalent à une fois et demie le SMIC. S'il remplit ces trois conditions, donc obtenir un Master 2 ou licence pro, un emploi en lien avec ses études et avec un salaire équivalent à peu près à une fois et demie le SMIC, il n'y a pas d'opposabilité de la situation d'emploi et l'obtention de la carte de séjour salarié est automatique. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le changement de statut de manière très très courte, mais voilà, gardez bien cette. Et c'est pour ça que je vous dis, la demande de changement de statut ne se fait pas à la dernière minute et notamment en fonction, quand je reçois un ingénieur, généralement je lui dis, quoi qu'il arrive, l'État français veut des ingénieurs. Mais un étudiant en sociologie, en philosophie, trouver un emploi avec une fois et demie le SMIC à l'issue de ses études, c'est extrêmement compliqué. Donc voilà. Donc je vous dis juste que ça s'anticipe. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Oui.
Pardon. Avoir sa nationalité, à demander la nationalité française quand on a fini ses études.
Alors, déjà, on n'obtient pas de nationalité française avec la carte de séjour étudiant. Parce que pour obtenir une nationalité française, c'est vous. En fait, on doit prouver à l'État français une volonté durable de vouloir s'établir en France. Par définition, un étudiant, comme je vous le disais au début, un étudiant est voué à le contrat avec l'État français, c'est de retourner dans son pays d'origine. Donc quand on a un statut d'étudiant, c'est un statut par définition précaire. Pour obtenir la nationalité, il faut effectivement montrer qu'on a des liens durables avec l'État français. Donc soit un contrat de travail, enfin c'est même pas soit, c'est généralement on travaille. Alors ils acceptent les CDD, mais il vaut mieux un CDI et un logement à son nom. Et bien entendu, une durée de séjour. Mais la durée est réduite lorsqu'on a obtenu notamment un diplôme d'enseignement supérieur en France. Le délai de stage est réduit à 2 ans. Donc j'ai envie de dire qu'un étudiant étranger doit de toute façon obtenir un changement de statut, salarié ou vie privée familiale s'il s'est marié avec une Européenne, un Français ou un bébé, etc. Il faut d'abord obtenir un changement de statut et dans les deux ans, quand l'étudiant aura changé de statut, ou salarié ou vie privée familiale, pourra faire sa demande de nationalité. Mais jamais avec le statut étudiant. On a de rares cas et les exemples sont les médecins. Puisqu'effectivement, les étudiants en médecine travaillent, font leur internat, ont des ressources conséquentes à la fin de leur internat, et c'est les rares cas où un jeune ressortissant étranger avec un statut étudiant a pu obtenir la nationalité. Mais par définition, le statut étudiant est antinomique avec la nationalité française, la demande de nationalité française. Donc on ne peut pas imaginer la nationalité comme solution, la demande de nationalité comme solution pour se maintenir sur le territoire français à l'issue des études. Ça n'est pas c'est pas une voie possible.
C'est par rapport aux démarches concernant la carte de séjour compétences et talents. Souvent, j'ai entendu parler de la carte de séjour compétences et talents. Tu peux vraiment nous expliquer comment on peut obtenir cette carte ?
Mais pas vraiment, parce que c'est une carte de séjour assez fourre-tout. Et nous, ce qu'on a pu voir, c'est des joueurs de foot de talent, ouais. Qui vont obtenir la carte compétences et talents. Donc on est sur là une fois de plus c'est l'État français qui se réserve le droit à un moment de dire voilà une personne de nationalité étrangère qui va assurer un certain rayonnement pour notre État et on a envie de la garder. Elle ne remplit pas forcément les conditions, mais elle a une compétence ou un talent, on veut la garder. En gros, l'idée réellement est là. Et là, j'ai envie de dire qu'il faut avoir un excellent niveau dans son domaine d'activité. Donc c'est, une fois de plus, c'est pas une carte que je mettrai en avant. C'est pas la carte du commun des mortels. Ceux qui obtiennent compétences et talents ne passent jamais par les points d'accès au droit. Ce sont effectivement, j'ai envie de dire, des sportifs. Ça peut être peut-être un peu moins le cinéma, etc. Mais ça peut être des modèles, ça peut être des top modèles, etc. On est vraiment sur une certaine catégorie avec un certain élitisme.
Une dernière question pour finir cette partie, s'il vous plaît. La toute dernière question.
Bonjour.
Bonjour.
En fait, ma question porte sur la libre circulation au niveau européen dans l'Union européenne. Du coup, je me demande, un étudiant légalement établi dans un État membre de l'Union européenne, je prends l'exemple de l'Allemagne.
Oui.
Aujourd'hui, disons qu'il a la barrière de la langue, il veut changer de pays, passer de l'Allemagne à la France. Comment ça va se passer, si possible ?
Il peut. Effectivement, c'est tout à fait possible parce que la carte de séjour étudiant, alors il peut déjà y avoir des accords avec les universités, où moi j'ai accueilli des étudiants effectivement qui venaient d'un autre État membre et par un programme d'échange entre, et ils venaient d'Allemagne d'ailleurs, ils venaient d'Allemagne, ils venaient faire 6 mois en France, donc. Il s'est rien passé de sa carte de séjour allemande lui permettait de venir étudier sur le territoire français sans aucune difficulté. si effectivement l'objectif est de venir s'établir plus durablement sur le territoire français, il va falloir effectivement refaire une demande de carte de séjour sur le territoire français, mais effectivement de l'État membre d'Allemagne, si l'étudiant vient d'Allemagne.
Merci bien Céline pour ton exposé qui était à mon avis clair et pertinent. Je pense que chacun de nous a retenu quand même quelque chose de très important, notamment les points quand même qu'elle a évoqués, notamment l'inscription, comment s'inscrire dans une université française et les démarches administratives qu'il faut faire et le renouvellement aussi de la carte de séjour étudiant et l'orientation professionnelle. Donc ce sont quand même des points très importants que chacun de nous doit retenir pour que ces démarches administratives et son adaptation, son intégration dans la société française et dans les établissements français soient correctes. Mesdames et messieurs, chère assistance, notre exposé touche à sa fin. Nous vous remercions de votre écoute et de votre attention.
Merci beaucoup, messieurs docteurs Johar, madame Villoutré. Je vous rappelle que madame Villoutré est en permanence tous les mardis après-midi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, elle sera là pour vous répondre.
Écoutez la différence avec Dunia Web, votre meilleure radio, Dunia Web.